Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
La vaccination sera gratuite pour tous. Le début de la vaccination est désormais une question de semaine.
Sécurité, transparence, gratuité et proximité. Le Premier ministre présente donc ce soir la stratégie de vaccination de la France.
Les choses se feront progressivement en commençant par les populations vulnérables. 1 million de personnes vaccinées en priorité en janvier.
Facebook anticipe les fake news et les théories conspirationnistes autour de cette vaccination. Le réseau social s'engage à supprimer les fausses allégations.
Emmanuel Macron rendra hommage ce soir à 20h à Valéry Giscard d'Estaing et c'est à suivre en direct ensemble sur Europe 1.
Les deux présidents qui ont souvent été comparés à juste titre, nous dira Aurélie Herbemont, et pas seulement pour leur jeunesse au moment de leur élection.
Au sommaire également ce soir, une nouvelle journée tendue au procès des écoutes avec une passe d'armes entre le haut magistrat Gilbert Azibert et le parquet financier.
Donald Trump se voit déjà candidat en 2024, preuve qu'il commence enfin à accepter sa défaite, nous dira Didier François. Et puis la Ligue Europa, Lille, Sparta, Prague, une place en 16e de finale. C'est jouable pour les nordistes. 5 minutes de jeu, 0 partout pour l'instant.
La météo avec Anissa, pas de remontée mécanique et pourtant la neige est bien là.
Oui, avec le département des Hautes-Alpes placé ce soir en vigilance orange-neige. Demain, il va encore beaucoup neiger sur les reliefs. La journée de demain sera très agitée sur toute la France. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et ça y est, on y voit plus clair donc ce soir sur la stratégie vaccinale en France.
Qui sera vacciné en priorité? Comment et par qui? Combien de doses? Combien ça coûtera? Le Premier ministre a détaillé tout ça ce soir.
Le début de la vaccination est désormais une question de semaine. La vaccination sera gratuite pour tous. Tout le monde ne pourra pas se faire vacciner immédiatement. Dans son avis publié lundi, la Haute Autorité de Santé a établi un ordre très précis des populations à vacciner. Elle nous recommande de vacciner d'abord les personnes âgées en établissement, notamment les EHPAD. Enfin, comme l'a annoncé le président de la République, nous ouvrirons progressivement, à partir du printemps, la vaccination à l'ensemble de la population.
Alors Anne Le Gall, vous avez écouté l'intégralité de l'intervention du Premier ministre à propos de ces vaccinations qui représentent pour tous les Français un énorme espoir évidemment et finalement ça va aller assez vite.
Exactement, l'autorisation européenne de mise sur le marché des vaccins BioNTech et Moderna pourrait intervenir fin décembre. La Haute Autorité de Santé, qui est une autorité indépendante, se prononcera ensuite sur cette validation. Ce qui fait que les personnes les plus fragiles, les personnes âgées vivant en EHPAD et le personnel à risque y travaillant pourront commencer à être vaccinées dès le mois de janvier. Cela correspond à environ 1 million de personnes. Puis en phase 2, cette vaccination sera élargie à 14 millions de personnes à risque supplémentaire. Et enfin, à partir du printemps, la phase 3, cette vaccination sera élargie progressivement à l'ensemble de la population, en commençant par les plus de 50 ans. 10 vaccins sont attendus d'ici l'été. 6 contrats ont déjà été signés par l'Union européenne pour sécuriser les approvisionnements. 2 vaccins seulement seront disponibles a priori chez nous en janvier. Ceux qui utilisent la technique de l'ARN messager et qui doivent donc être conservés dans des super congélateurs. Il va falloir construire une logistique adaptée, a dit le Premier ministre. Mais nous avons acheté le matériel, nous serons prêts. La stratégie vaccinale sera présentée au Parlement et le médecin généraliste sera au cœur du dispositif, ainsi que le personnel de santé de terrain dans les territoires. Enfin, Jean Castex a insisté, cette vaccination se fera dans une totale transparence. Rien ne se fera au détriment de la sécurité sanitaire.
Merci Anne Le Gall, le Premier ministre qui appelle les Français à se faire vacciner. C'est un acte altruiste, dit-il, et il précise par ailleurs que pour les fêtes de fin d'année, pour Noël en particulier, ce serait bien de ne pas être plus de 6 personnes à table pour Noël, donc sans compter les enfants, 6 adultes.
Si l'arrivée de ces vaccins suscite énormément d'espoir, elle s'accompagne, on le sait également, d'une certaine défiance.
Simple sceptique ou adepte des théories du complot, Clément Le Saffre, pour couper court à ces théories farfelues, le réseau social Facebook annonce aujourd'hui la mise en place de mesures de modération.
Oui, à partir d'aujourd'hui, Facebook s'engage à supprimer toutes les publications qui mettent en avant de fausses affirmations à propos du vaccin contre le Covid-19. Ça concerne par exemple les messages alertant sur des micropuces 5G cachées dans les doses ou encore les théories fumeuses sur Bill Gates ou sur les essais cliniques non consentis. Par ailleurs, les publicités payées pour décourager les utilisateurs de se faire vacciner contre le Covid seront également supprimées. Le réseau social précise que cette nouvelle politique de modération va évoluer en même temps que les connaissances sur le vaccin avanceront. Pour faire le tri, Facebook prendra comme source les publications des agences officielles de santé publique. Et c'est une nouveauté. Jusqu'ici, Facebook supprimait uniquement les fake news ayant trait au Covid-19 en lui-même. Par exemple, les posts affirmant qu'il serait une création du lobby pharmaceutique. Le réseau social fait d'ailleurs savoir qu'il a supprimé 12 millions de publications de ce genre entre mars et octobre.
Précision signée Clément Le Saffre. Il était très grand, avec un nom très long. Valéry Giscard d'Estaing, VGE, c'était plus court, l'ancien président mort hier soir à 94 ans.
En 1974, il était devenu le plus jeune président de la République à 48 ans, incarnation du centre droit. Grand réformateur, il n'a pas hésité à faire bouger les lignes, droit à l'avortement, divorce par consentement mutuel, abaissement de la majorité également à 18 ans, regroupement familial pour les migrants.
Emmanuel Macron a prévu de lui rendre hommage ce soir à 20h, on suivra ça en direct sur Europe 1. On a souvent comparé les deux présidents, il faut dire qu'ils ont beaucoup de points communs, Aurélie Herbemont.
Et oui, si Emmanuel Macron aime se mettre dans les pas du général de Gaulle, il a sans doute plus à voir avec Valéry Giscard d'Estaing, à qui il a ravi le titre de plus jeune chef de l'État. Leur similitude ? Énarque, ministre de l'économie, libéraux, européens convaincus, tous deux entrés à l'Élysée sans grand parti installé. Valéry Giscard d'Estaing avec les Républicains indépendants, Emmanuel Macron avec En Marche. Les deux présidents partagent aussi le centrisme. Valéry Giscard d'Estaing venu de la droite, Emmanuel Macron venu de la gauche. L'ancien président voulait rassembler deux Français sur trois. L'actuel a théorisé le « et en même temps » et de droite et de gauche. Ils ont aussi en commun la même volonté d'apparaître résolument modernes, tout en appréciant le côté monarchique de la Ve République. Mais différence majeure entre les deux hommes, Valéry Giscard d'Estaing a occupé à peu près tous les mandats possibles, contrairement à Emmanuel Macron, qui ne revendique aucune filiation giscardienne. Il veut éviter de partager une chose avec son lointain prédécesseur. Valéry Giscard d'Estaing a été congédié par les Français au bout d'un mandat.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
Et on suivra donc en direct l'hommage ce soir d'Emmanuel Macron à partir de 20h. Claude Guéant, mis en examen pour association de malfaiteurs dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. C'était en 2007.
Oui, une mise en examen qui intervient alors que se tient en ce moment le procès de l'affaire dite des écoutes, dans lequel comparaît justement l'ancien président. Après une suspension brutale hier soir, l'audience a repris avec la fin de l'interrogatoire de Gilbert Azibert aujourd'hui, mais la tension n'est pas redescendue pour autant. Gladys Laffitte, vous suivez ce procès pour Europe 1.
Non, au contraire, Gilbert Azibert était remonté contre les procureurs financiers, très excédé. Il a d'emblée expliqué à la vice-procureure qu'il ne répondrait pas à ses questions sur ses agendas. Si ça continue, je vais demander une suspension d'audience. Je commence à fatiguer. Voilà, pour l'ambiance qui ne s'est pas vraiment améliorée, on a assisté à une joute entre magistrats, entre juristes même. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Gilbert Azibert n'a pas mâché ses mots. Lorsqu'on a la prétention de poursuivre un ancien président, l'un des meilleurs pénalistes et modestement un magistrat, on a au moins la curiosité d'ouvrir le code pénal. Je ne relève pas du trafic d'influence. Je suis scandalisée par la légèreté du parquet et son incompétence. Alors rire dans la salle, remplie d'avocats venus soutenir leur confrère Thierry Herzog. Rire aussi sur le banc des prévenus, y compris derrière le masque de Nicolas Sarkozy. Mais aucun rire côté parquet qui répondra lors des réquisitions. Vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas si bon juriste que vous le prétendez, a asséné le procureur. Sans vraiment avoir ébranlé Gilbert Azibert, je vous retourne le compliment, a-t-il rétorqué.
Gladys Laffitte qui suit ce procès pour Europe 1. 15 ans de prison réclamés à l'encontre de l'ancien chirurgien Joël de Squarnec, accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. Le verdict sera prononcé dans la soirée. Et puis dans le Lot, un chasseur en garde à vue. On le soupçonne d'avoir tué accidentellement un Britannique de 25 ans près du village de Calvignac. Un drame qui est intervenu lors d'une battue au sanglier.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Suite du journal à 19h10 et on part donc aux États-Unis comme promis, où à un mois et demi de l'investiture de Joe Biden, Donald Trump commence du bout des lèvres, Isabelle, à concéder sa défaite. Il pense même déjà au match retour.
Et vous savez quoi, on va en parler ce soir avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors battu hein, peut-être Trump, mais déjà prêt à rebondir.
Ah ben voilà, c'est à la limite de l'obsession, mais Donald Trump ne lâche pas l'affaire. Il ne peut pas se passer de la Maison Blanche et il a encore surpris son monde hier soir au cours d'une réception donnée justement dans les salons de la résidence officielle des présidents des États-Unis, cette espèce de meringue en grès du 1600 Pennsylvania Avenue de Washington, où il avait invité ses fidèles, son dernier carré. Il y a prononcé un discours de 46 minutes et il a lâché à cette occasion cette phrase sibylline : « Je viens de passer 4 années fantastiques, j'essaye d'en faire 4 de plus et sinon, je vous reverrai » dans 4 ans. Alors c'est évidemment une façon d'annoncer qu'il sera à nouveau candidat à la prochaine présidentielle en 2024, mais c'est également une manière donc de reconnaître que Joe Biden sera bien adoubé la semaine prochaine par les grands électeurs et puis qu'il prendra ses fonctions présidentielles lors de son investiture le 20 janvier prochain. Et Donald Trump, eh bien à ce moment-là, devra quitter ses fonctions, quitter la Maison Blanche, mais surtout il devra remettre à Joe Biden son compte officiel Twitter, le fameux compte POTUS, President of the United States, et ce qui semble être pour lui le renoncement le plus douloureux.
Bon, il y aura peut-être des primaires républicaines quand même d'ici 2024. En attendant, Donald Trump n'a pas pour autant concédé sa défaite.
Eh bien justement, on en vient à la question des primaires républicaines, parce qu'il n'a évidemment pas concédé sa défaite. Il continue de clamer qu'on lui a volé sa victoire, qu'il est victime d'une tricherie organisée à grande échelle. Alors, ce qu'il est en train d'admettre, c'est l'échec des procédures judiciaires lancées par ses avocats, puisque toutes les plaintes ont été rejetées, que ce soit dans des États démocrates, dans des États républicains, puis que même son propre ministre de la Justice a définitivement écarté, nié l'hypothèse des fraudes massives. Mais effectivement, Donald Trump relance l'offensive sur le terrain politique en utilisant à la fois son très bon score électoral, malgré sa défaite, et puis ses derniers jours en tant que président pour, effectivement, vous avez raison, s'imposer à la tête du Parti républicain.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Et on notera que pour vous, la Maison-Blanche est une meringue. On va faire un saut, le grand écart. On part tout de suite à Lille. Le foot, la Ligue Europa, Lille, leader de son groupe qui reçoit en ce moment le Sparta Prague. Ça se passe sous vos yeux, Sébastien Boé?
Oui, et c'est parti depuis 17 minutes ici au stade Pierre-Mauroy, 0-0 entre le LOSC et le Sparta Prague. Le LOSC qui peut décrocher dès ce soir son billet pour les 16e de finale de l'Europa League en cas de victoire face aux Tchèques. Des Tchèques que les Nordistes avaient battu 4-1 au match aller. Un match nul pourrait également suffire, mais pour ça il faudrait que dans l'autre match du groupe, Milan ne batte pas le Celtic Glasgow. Des Lillois qui pour le moment réalisent un bon parcours en Coupe d'Europe. Ils sont leaders de leur groupe, le groupe H, mais paradoxalement cela fait 14 matchs et 8 ans que Lille n'a pu remporter une rencontre de Coupe d'Europe à domicile ici au Stade Pierre-Mauroy, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League. Une série que les Nordistes aimeraient stopper également ce soir.
Notre rédacteur en chef, en tout cas, y croit. Merci Sébastien Boé, en direct du Stade Pierre-Mauroy. À 21h, Nice recevra le Bayer Leverkusen. Et puis sachez que la France affrontera la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations. Ce sera en octobre 2021. Le tirage au sort vient d'être effectué.
Bien, on a le temps d'en reparler d'ici là. Merci Isabelle. On vous retrouve demain, évidemment, à partir de 18h. La météo avec Anissa, qui nous annonce un temps froid et une vigilance, surtout dans les Hautes-Alpes.
Oui, ce département est effectivement placé en vigilance orange-neige. C'est à partir de cette nuit et demain toute la journée que la neige va tomber en abondance sur ce département des Hautes-Alpes, avec des cumuls importants qui, demain matin, vont rendre la circulation difficile. Donc, grande prudence si vous nous écoutez dans les Hautes-Alpes ce soir. Demain, il ne va pas neiger que dans les Hautes-Alpes, il va neiger également sur le Massif central et les Pyrénées, là aussi il va bien neiger. Cette nuit et demain, attention au vent sur la façade atlantique, il va souffler fort cette nuit à plus de 100 km/h. Sur les Alpes-Maritimes et la Corse, les pluies seront soutenues, accompagnées même de coups de tonnerre. Dans l'ensemble, vous l'avez compris, la journée de demain est agitée. Sur la région parisienne et le centre, le temps reste sec, il n'y a finalement que dans ces régions que le temps sera sec, avec quelques éclaircies. Partout ailleurs, c'est couvert avec des averses. En Normandie, vous aurez même droit au grésil demain. Les températures, moins 1 degré à Vannes. Elles sont un petit peu plus douces demain matin. On a moins de gelée. 5 degrés à Paris, 7 à Nice. Et puis, dans l'après-midi, nous avons des températures de saison. 5 à 15 degrés. 5 pour Belfort, 8 à Paris, 11 à Montpellier et 14 à Marseille.
Bon, belle ambiance ce vendredi donc sur la France.
C'est hivernal.
Merci Anissa. Belle soirée à vous
demain.
Et à demain.